Pierre, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Radio Kapila, fréquence de la paix. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. La situation des droits de l'homme en RDC a été examinée le 5 novembre dernier lors de la 47e session de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui se tient à Genève du 5 au 15 novembre 2024. Pour la RDC, c'est la 4e fois après 2009, 2014 et 2019. Face aux inquiétudes soulevées par le groupe de travail de l'examen périodique universel, notamment sur le respect des droits de l'opposition, la liberté d'expression et autres violations des droits de l'homme. En RDC, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement qui faisait partie de la délégation congolaise a démontré les efforts consentis par le gouvernement congolais pour la promotion des droits de l'homme en RDC. Pour les ministres de la Communication et Médias, au regard de 276 recommandations que la RDC a reçues lors du 3e examen périodique universel, des avancées significatives ont été enregistrées dans la promotion des droits de l'homme en RDC. Le rapport à la commission fait mention des lois votées et promulguées dans les domaines variés tels que la protection, la responsabilité des défenseurs des droits humains, des peuples autochtones, des personnes en situation d'handicap et autres catégories vulnérables. Et pour les libertés relatives à la presse, aux droits d'expression, de réunion ou de manifestation, elles sont garanties sous respect de la loi et de l'ordre public, ce qui n'est pas généralement de l'avis des organisations de défense des droits de l'homme et de l'opposition. Que pensez-vous de la promotion des droits de l'homme en RDC? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Pour aussi écrire à l'adresse pia@.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les zones 9 7 6 80 79. Paul Badianyama est à la mise en onde de ce magazine et mais aussi et de l'équipe multimédia avec Jonathan Fouanani, Clément Chimanga. Il y a Julie Feza Bongonda qui est à la réalisation, à la coordination de ce magazine au micro. C'est Marcel Ngomombala, à toutes et à tous. Et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Bienvenue encore une fois dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs et pour en parler de cet examen périodique universel de la situation des droits de l'homme en RDC, nous avons le plaisir de recevoir dans ces studios le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Voilà, merci surtout d'avoir répondu à notre invitation pour aborder cette question cruciale des droits de l'homme en RDC. Vous avez fait partie de la délégation congolaise lors de cette 47e session. Et s'il faut retenir les recommandations essentielles ou bien les avancées des droits de l'homme en RDC lorsqu'on sait qu'il avait 2009, il avait 2014, 2019 et cette fois-ci c'est la quatrième fois que la RDC est mise sous examen. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet examen?
D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est ce que vous avez dit, c'est les progrès et les avancées que nous avons fait sur cette question des droits de l'homme. Je rappelle ce que j'aime à dire souvent et ce qui nous caractérise, c'est que pour nous, la promotion et la protection des droits de l'homme est d'abord avant tout une question de conviction. Et pas d'obligation, parce que simplement la tendance est de croire que c'est les Occidentaux, nous faisons ça parce qu'ils demandent ça. Non, nous le faisons parce que le président de la République lui-même est un fervent défenseur des droits de l'homme. Alors, l'occasion de l'examen périodique universel est un moment qui est donné à chaque pays, parce que tout le pays du monde finisse par y passer, pour que nous puissions faire le point de l'évolution de la situation des droits de l'homme. Et pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, depuis les derniers examens, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, notamment la loi Muyaya, pour ne parler que de ce qui concerne l'exercice de la liberté de la presse. Par exemple, Il y a plusieurs autres lois, la loi portant protection, je pense protection de personnes vivant avec handicap, la loi qui concerne les peuples autochtones. Il ne s'agit pas seulement aussi de lois ou des textes, mais il s'agit aussi d'autres progrès qui sont faits, notamment en matière de représentativité de la femme. Aujourd'hui, nous avons une femme qui est chef du gouvernement. Je vous épargne d'ailleurs d'en faire le nombre de celles qui sont aux institutions bien représentées. Mais tout ça pour ça, pourquoi ? Parce que nous voulons que ces questions de liberté fondamentale, au-delà de toutes les difficultés que nous rencontrons, puissent être respectées et puissent être promues. La grosse épine que nous avons, c'est justement la situation dans l'Est, parce que c'est la situation dans l'Est qui représente un peu l'épicentre de toutes les violations de droits de l'homme qu'on peut déplorer, parce que lorsque vous regardez les conditions de nos frères qui sont déplacés, je ne suis pas sûr que les droits humains sont tenus du fait justement malheureusement de cette agression rwandaise qui continue à perpétuer ces climats malsains dans l'Est de la RDC qui affectent les droits humains de nos populations et pour lesquels le gouvernement continue de travailler. Et donc on a eu l'occasion durant cet examen de dire le progrès que nous avons fait. Alors dans la délégation, il n'y avait pas seulement le gouvernement, il y avait l'Assemblée nationale à travers la présence du premier vice-président, il y avait des représentants de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'il était question pour nous d'y répondre comme République démocratique du Congo dans tous les embranchements du pouvoir. Ça veut dire l'exécutif, les législatifs, les judiciaires. Et dans un jeu de rôle, chacun de nous a eu l'occasion de dire devant le Conseil national des droits de l'homme le progrès que nous avons fait pour des questions spécifiques. Et je pense que plutôt, nous sommes rentrés plutôt satisfaits de voir que nous avons passé un examen réussi, parce que même si nous avons reçu des recommandations comme des coutumes, mais globalement, tous les pays du monde, lorsqu'ils prenaient la parole, ils prenaient pour nous encourager et saluer les progrès que nous avons faits sur la conduite du président Tshisekedi.
Voilà, il faut reconnaître, ça il faut le dire, monsieur le ministre, qu'il a des avancées dans la promotion des droits de l'homme en RDC avec des lois qui ont été votées. Vous êtes revenu sur ça, par exemple, des lois pour la protection, la responsabilité du défenseur des droits humains. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement de leur application? Il y a des lois qui sont votées dans ce pays, mais il y a l'application qui pose problème.
Écoutez, il y a toujours une distance. Moi, lorsque je parle, par exemple, de la loi Miaya, pour parler de la liberté de la presse, aux États généraux de la justice, j'ai eu l'occasion d'interpeller les magistrats. Parce qu'il y a un principe de droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Je ne dirais pas que les lois ne sont pas connues par ceux qui rendent justice, je n'irai jusque pas à le dire, mais je crois qu'il y a un chemin qui doit être parcouru par une loi pour qu'elle puisse être reconnue. Au-delà de ce qui précède son examen, sa préparation au niveau du Parlement ou même son adoption, il y a un besoin que ceux qui sont concernés puissent le savoir. D'abord, les journalistes eux-mêmes, pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne la loi que vous évoquiez, les défenseurs des droits humains, mais aussi ceux qui sont censés être en face, notamment dans les cas où ils sont attaqués, où leurs droits sont menacés, pour qu'ils savent ce que donnent ce que disent les dispositions contenues dans les textes mères, dans les textes qui assurent leur défense et leur promotion. Donc ici, la question, c'est pas seulement de faire de loi. La question, c'est de s'assurer que ceux qui doivent être en mesure de faire appliquer les lois soient au courant. L'autre question, c'est de prendre des mesures, parce que les lois, on les fait, mais il y a toujours des mesures d'application qui font suite à l'adoption de ce loi et qui viennent compléter et assurer l'effectivité de la mise en œuvre de la loi. Donc vous voyez que nous sommes plutôt engagés sur tous ces fronts et nous ne dirais pas que nous sommes satisfaits, nous apprécions le chemin que nous avons parcouru et nous allons continuer dans ce sens-là. Mais ceci doit se faire aussi dans un cadre global où chacun a compris son rôle.
Mais parlons plutôt de liberté relative au droit d'expression, de réunion, de manifestation. En tout cas, selon les gouvernements, ils sont garantis au respect de la loi de l'ordre public, mais de la vie de défenseurs des droits de l'homme. Mais de l'opposition, c'est pas le cas. L'opposition estime que on est de plus en plus en train de faire un recul par rapport au droit de manifester.
Allant sur deux cas concrets. À ma connaissance, j'ai pas entendu récemment une demande d'opposition à manifester qui n'a pas reçu de...
Non, pas récemment.
Mais justement, parce que nous sommes en train de faire l'examen périodique. Bon, dites-nous les cas, parce que, vous savez, il n'y a aucune liberté qui n'est pas encadrée. Donc, il ne faut pas, parce qu'on est de l'opposition, penser que nous devons utiliser nos libertés ou nos droits sans tenir compte du droit des autres ou sans tenir compte du rôle de l'État dans la préservation à la fois de nos propres droits comme opposition, parce que si vous voulez manifester, quoi que vous le dites, il faut que l'autorité compétente soit au courant, il faut qu'un encadrement puisse être fait, et moi j'observe que de ce point de vue, nous avons fait beaucoup de progrès, et il faut peut-être qu'on se rappelle qu'il y a eu la campagne électorale il y a presque une année, là, au 19 novembre, c'était une année, et je suis sûr que de ce point de vue, tous ceux qui voulaient être candidats, tous ceux qui voulaient faire campagne ont eu l'occasion de le faire, mais alors il faut qu'on fasse très attention nous-mêmes dans ce que nous disons. Il ne suffit pas de dire, il faut démontrer.
Voilà, monsieur le ministre, avant d'ouvrir le standard, il y a des auditeurs qui aimaient déjà intervenir. Simon Silou, qui nous appelle depuis Matadi au Congo, son télémaître Patrick Odia. Cet quatrième examen s'est fait dans un contexte où la RDC est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour l'exercice 2025-2027 depuis 2024. Vous pensez que cela peut jouer dans la promotion des droits de l'homme en RDC
Écoutez, le fait que nous puissions être au Conseil national des droits de l'homme, d'abord, c'est un progrès. C'est un motif de fierté qui illustre davantage la stratégie du président Tshisekedi et du gouvernement. Parce que être membre du Conseil national des droits de l'homme, être élu à ce niveau, ça nous permet de nous positionner sur des causes qui nous portent, mais ça nous permet aussi d'avoir un rôle central dans les débats qui se feront au sein du Conseil national des Nations Unies pour le droit de l'homme. C'est un progrès stratégique et l'occasion de l'examen périodique universel était aussi le moment pour nous de tordre le cou à tout ce qui est dit. Parce que fort malheureusement, vous savez, cher Clément, cher Marcel, lorsque les choses sont bien faites, les gens n'en parlent pas. C'est lorsqu'il y a des difficultés, que vous sentez qu'il y a de voix qui veulent s'élever, que vous sentez qu'il y a de gens qui veulent venir pour critiquer ou dire ce qui marche pas. Et nous, dans ce qui nous concerne, nous constatons que dans les engagements que nous avons pris, encore une fois, une question de conviction, que nous progressons et que nous devons être nous en mesure de dire ce que nous faisons, mais nous devons aussi être en mesure de dire et de reconnaître qu'il y a encore des défis. Et donc tous ceux qui viennent alors faire de rapports sur telle situation, nous sommes au courant et nous sommes engagés à répondre à chaque défi que cela impose.
Monsieur le ministre, il faut le dire, nous on vous apprécie beaucoup simplement parce que vous avez souvent l'occasion, en tout cas d'essayer de répondre à l'invitation des médias, pas seulement à la Radio Capi, lorsqu'il y a des problèmes qui se posent pour expliquer, parce qu'il y a un déficit de communication qui fait que des fois, lorsque les choses ne marchent pas, personne ne veut communiquer en tant qu'autorité compétente et les gens peuvent spéculer comme ils veulent.
Oui, mais vous savez, maintenant c'est ça la dangerosité, parce que lorsqu'on parle de communication, il y a évidemment la part du gouvernement dans ce que nous faisons. Mais ce que nous faisons, nous le faisons pour qui? Nous le faisons pour les Congolais. Tout à l'heure, vous parliez de l'application de la loi. Je vous ai dit que les parties prenantes, les concernés eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ici, c'est peut-être, j'allais dire, trop facile d'attendre que le gouvernement puisse être les seuls qui arrivent à communiquer sur ce qu'il fait. Pour les populations, moi j'apprécie par exemple quand je regarde un journaliste comme Patient Ligodi qui fait un effort pour régulièrement parler des avancées que nous faisons dans l'écosystème, les contenus de la loi pour que cela puisse être reconnu. Je pense que c'est de cette manière aussi que tout le monde peut s'en approprier. Donc il suffit pas que nous le gouvernement nous fassions, nous nous communiquons, mais il faut que le Congolais pour qui nous agissons et qui sont bénéficiaires de ces lois puisse à leur niveau s'en saisir, en parler. Ce n'est que de cette manière que eux, à leur niveau, peuvent donner des réponses. Parce que parfois, moi, lorsqu'on parle, par exemple, de l'image de marque du pays, j'entends des gens dire, bon, monsieur le ministre, le gouvernement, mais je suis désolé, cher Marcel, chaque Congolais a une voix à donner pour l'image de marque du pays. Lorsqu'on vous interroge sur votre pays, qu'est-ce que vous dites? C'est pas le gouvernement qui doit venir vous souffler pour vous dire que vous êtes Siamet congolais malgré les défis que nous avons, malgré les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Mais pour ce qui nous concerne, ceci renforce notre engagement à communiquer encore davantage. Et vous pouvez en être sûr que nous le ferons.
Voilà, monsieur le ministre, on revient vous, le temps pour nous d'ouvrir le standard pour accueillir les avis des auditeurs par rapport à ces sujets. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Par nos auditeurs, nous parlons aujourd'hui de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme de Nations Unies, où le 5 novembre dernier, la RDC a été assurée des droits de l'homme. En RDC a été examiné. Si vous voulez intervenir, vous pouvez composer les ondes à 971-680-79. Merci également de nous suivre en direct sur la plateforme digitale de Radio Capi, à savoir YouTube, Facebook et X.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on y va avec Simon Silolo qui nous appelle depuis Matadi au Congo central. Simon Silolo, vous avez la parole.
Merci beaucoup à vous et merci beaucoup à notre porte-parole, le porte-parole de notre gouvernement pour qui nous avons beaucoup d'estime. Et merci à tous les auditeurs qui nous suivent à travers le monde. En fait, je comprends les soucis du président de la République et un peu d'une partie du gouvernement à faire avancer les choses pendant leur temps. Ils veulent marquer une empreinte qui peut dire que voilà ce qu'ils ont fait dans le cadre des droits de l'homme. Mais je comprends aussi la difficulté qui est la leur de faire accepter ou sinon de convaincre ceux qui travaillent avec eux pour qu'ils arrivent à réussir à mettre à l'œuvre la liberté ou sinon les droits humains. Et parce que ces gens sont ancrés pendant des décennies dans un système qui était déjà où les droits humains étaient bafoués, étaient négligés.
Alors, Simon Silolo, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Je crois qu'il le sait que les enseignants viennent d'être forcés de suspendre la grève parce que, disait-il, qu'on risque de frôler la névrage. Et beaucoup d'enseignants ont été sanctionnés parce qu'ils ont exercé la liberté de grève, la constitution. Donc, il y a beaucoup de chefs d'établissement. Moi-même, j'ai failli être muté parce que j'exerce un droit de l'homme. Nous comprenons que le président de la République est pour l'avancement de ce genre de choses parce que la cote sur le plan international dépend aussi de ça. Mais le problème, monsieur le porte-parole du gouvernement, se trouve dans votre camp. Parmi vous, il y en a qui n'arrivent pas à intégrer cette dimension-là, de laisser voir quelqu'un manifester sa liberté sans pourtant enfreindre à la liberté. Et il y a des gens parmi vous, et c'est là où viennent maintenant les véritables problèmes. Les enseignants sont en grève. Les autorités utilisent des
mots. Mais Simon, s'il vous plaît. Nous voulons savoir pour vous, lorsque vous parlez des enseignants qui sont en grève, qu'on a forcé à reprendre les enseignements, pour vous, il y a des avancées ou pas pour ce qui est de la situation des droits de l'homme en RDC?
À long terme, si les sanctions commencent à ces gens-là qui arrivent à restreindre la liberté des citoyens, je pense que les choses pouvaient aller en mieux. Mais du moins, tout ce qui est fait par le gouvernement du président de la République, on sent quand même qu'il y a un certain esprit et la volonté de vouloir avancer.
Voilà, mais voilà, Simon, si vous savez bien cela, vous sentez qu'il y a un esprit, la volonté d'avancer, mais vous estimez qu'il faut sanctionner tous ceux qui essaient d'enfreindre les droits de l'homme dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, merci Simon, si vous d'avoir appelé depuis Matadi. On va à Lubumbashi pour retrouver Maître Patrick Odia. Maître Patrick Odia, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour à l'excellence Patrick Muyaya et à tous les auditeurs de la radio Capi qui nous écoutent en ces moments sur cette question liée aux droits substantiels de la personne ou du peuple congolais également. Je reconnais qu'il y a des avancées significatives dans le respect ou la promotion des droits de l'homme, mais il est à noter également que ces avancées ne corrobore pas avec la réalité vécue sur le terrain. Je peux parler que nous étions peut-être à 5% du respect ou de la promotion des droits de l'homme, mais à ces jours, avec le régime en place, peut-être nous avons avancé à 17%. Voyez-vous, lorsqu'un enfant fait 17% pour cent, vous pouvez voir également, si bien qu'il y a des avancées, mais ces avancées ne corroborent pas ou n'entrent pas dans le... ne donnent pas, c'est pas comment je peux dire, ne donnent pas accès à tout ce que nous pouvons apprendre par la promotion et le respect des droits de l'homme. Ça, c'est un fait. Parce que beaucoup de gens parlent de la liberté d'expression, la liberté des manifestations et tout ce qui va avec. Je pense que la RDC, de ce côté, je dois être honnête, il y a quand même des avancées significatives. Il suffit de faire une étude comparative avec les pays voisins. Vous pouvez vous rendre compte, j'ai eu à me retrouver dans un pays voisin. Vous pouvez vous rendre compte sûrement que chez nous, quand même, il y a cette expression valable de la communication, j'allais dire, des défenseurs et autres également. Mais là où la RDC doit fournir beaucoup d'efforts, c'est sur l'amélioration de la condition ou des conditions de populations vulnérables. Qui dit population vulnérable, ils ont droit à une éducation de base, des qualités, soins de santé, des qualités, et tout ce qui va avec. Mais nous ne pouvons que parler de Kinshasa ou de Lubumbashi, des grandes villes. Marcel, même honorable ou excellence Patrick Muyaya, vous pouvez descendre chez moi à Tshilenge, vous pouvez aller à Idjofa, vous pouvez aller à beaucoup de villages un peu les recoins, vous pouvez vous rendre compte que la promotion des droits de l'homme n'a pas du tout caractère d'englober que les libertés d'expression et autres qu'on peut connaître au niveau de Kinshasa. Mais au niveau de village, au niveau Riro également, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a aucun respect des droits de l'homme. Les agents de la NER font la loi, les OPJ, même les OPJ font la loi, et même les administrateurs du territoire, j'en ai également commenté quelque chose, ils font la loi dans les milieux Riro. Non, on ne peut pas à ce stade parler ou se taper la main sur la poitrine pour dire que la promotion et le respect des droits de l'homme vont bien en RDC. D'autant plus que les besoins substantiels et fondamentaux même de la vie ne sont pas respectés. Vous avez au jour d'aujourd'hui l'éducation qui est en baisse. Vous avez aujourd'hui les soins de santé qui sont devenus difficiles. Vous, les ministres et les députés, vous avez la facilité de pouvoir quitter ici et aller en Europe.
Mais maître Patrick,
il n'y a pas moyen de pouvoir accéder à des hôpitaux et surtout aux soins de santé de qualité.
Maître Patrick, vous avez parlé des soins de santé. Il y a la couverture santé universelle. Il y a également la gratuité de l'enseignement. Vous pensez, selon vous, c'est quand même des avancées pour la promotion des droits de l'homme, mais il faut encore plus beaucoup d'efforts.
Marcel ?
Vous m'entendez, maître Patrick ?
Marcel ?
Oui, on vous écoute, vous êtes en ligne, allez-y, on vous écoute.
Oui, oui, c'est ce que j'ai dit en fait, et qui dit, si la RDC veut réellement améliorer les choses, je pense que le gouvernement devait prendre quelques...
On a apparemment des soucis avec la ligne de maître Patrick Odia depuis le Lubumbashi, mais vous avez suivi l'essentiel de son propos. Il a pensé qu'il faut améliorer les conditions des populations vulnérables et surtout en milieu rural. On sort on va en dehors de nos frontières pour retrouver Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Franck, vous avez la parole.
Oui, bonjour à nous tous, surtout à son excellence, monsieur le ministre Patrick Muyaya, qui est avec vous au studio. Oui, par ce fait que la République démocratique du Congo est déjà au sein du Conseil universel des droits de l'homme, elle doit elle-même prêcher de plus en plus à travers des bons exemples et pas seulement par des simples slogans et paroles creuses. Et si le cas de la République démocratique du Congo a de nouveau été examiné au niveau de ce forum, cela se justifie au regard de ce qui vient d'être évoqué plus haut. Et comme toujours, chaque ministre qui intervient à de tels forums ne peut que défendre des intérêts de son gouvernement respectif et tout ce qui se fait de l'intérieur. Tout en prenant acte de certains efforts qui se font constater à travers les adoptions de certaines lois votées et promulguées dans divers ressorts de vie, il y a lieu de reconnaître que de plus en plus, nous assistons aussi parfois à des actes, des intimidations et des situations parfois contraires aux droits de l'homme et à tout ce qui est indigne par rapport à l'avancée de ce que nous visons. Combien de journalistes, combien de leaders d'opinion, combien d'opposants ne se retrouvent-ils pas encore jusqu'à présent aux arrêts suite à leur point de vue, suite à leurs appartenances ou suite à tout ça? Et nous sommes en train de suivre ce que le ministre est en train de dire. Oui, nous comprenons, mais monsieur le ministre, cette avancée des droits de l'homme, ça doit vraiment se manifester dans tous les ressorts de la vie. Moi, personnellement, je suis content quand je vous suis. Vous défendez convenablement les intérêts de notre pays. Mais mettez-vous aussi, monsieur le ministre, à la place des fonctionnaires, les travailleurs de la fonction publique, les gens qui sont en grève, qui sont impayés depuis 2 mois, 3 mois. Les salaires, c'est aussi un droit minimum. Selon vous, si les salaires des travailleurs ne sont pas payés pendant 2 mois, 3 mois, est-ce qu'on peut vraiment parler du respect des droits et de la liberté? Parce que quelqu'un qui travaille a droit à son salaire. Du moment où son salaire ne lui est pas versé à temps, s'il le réclame, il est intimidé. Et si on doit voir comment les agents de nos services de renseignement procèdent lors des arrestations, mais ça nous éloigne parfois de cette aspiration, de cet idéal. Donc on aimerait vraiment voir que ce que vous dites, que ça puisse correspondre à ce qui s'est fait. C'est bien de dire qu'on avance, mais c'est mieux aussi que de l'intérieur qu'on fasse vraiment ces efforts-là et surtout discipliner aussi ces agents qui vont procéder par des arrestations parfois indignes. Parfois parce qu'à l'heure de la digitalisation, vous ne pouvez pas penser que ce qui s'est fait à Kinshasa n'est vu qu'à Kinshasa. Vous le savez mieux que nous. Avec la digitalisation, ça se passe à New York, c'est suivi dans tous les coins du monde. Et si déjà on est en train de voir comment parfois certains journalistes sont malmenés, sont torturés, sont indignés, comment on pourrait encore nous respecter à ce niveau-là, quand bien même on peut arriver à argumenter avec de belles phrases? C'est là où nous avons parfois des difficultés.
Voilà,
merci
Franck,
beaucoup, je crois avoir dit l'essentiel.
Voilà, merci Franck à vous d'avoir appelé depuis Vienne en Autriche. Vous avez insisté sur le comportement, en tout cas de certains agents de l'ordre lorsqu'ils procèdent à des arrestations. Et j'en profite avant d'accorder la parole à Maître Naomi qui nous appelle depuis Mbandaka de lire rapidement ses réactions de Moïse Kayumba depuis la ville de Kisangani. Concernant ces sujets, j'ai toujours trouvé une énorme difficulté du respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo, puisque le fait d'avoir le pouvoir, on ne sait plus faire la différence entre l'outrage, l'injure publique, la liberté d'expression. On ne reconnaît pas, on reconnaît plus la sacralité de la personne humaine. C'est comme dans ici avec la police à Kisangani. Il y a des policiers qui ne connaissent même pas quel est le rôle d'un policier. Nous avons une police militarisée, donc pour lui c'est seulement arrêter, c'est tout. Et parfois, lorsqu'ils viennent arrêter une personne à son domicile, ils volent même ce qu'ils vont trouver là-bas. Ils n'ont pas été formés avant d'intégrer la police. Le respect de la personne humaine n'est pas reconnu. Voilà, c'était une réaction de Moïse Kayumba depuis Kisangani. On revient au standard pour écouter Maître Naomi qui nous appelle depuis Mbandaka. Maître Naomi, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour à monsieur le ministre et à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, maître.
Voilà, nous saluons la présence de monsieur le ministre et son intelligence dans l'accomplissement de ses fonctions. Comment il fait la fierté de notre pays et à l'étranger et partout. Alors, moi je voulais, je m'inscris en faux contre tous ceux qui fustigent la présence de la RDC au Conseil universel des droits de l'homme, parce que si on jette un coup d'œil parmi les États membres, nous voyons même des agresseurs de d'autres pays voisins qui sont dans ces conseils. Alors la RDC, vu que pendant plusieurs décennies vit dans une situation d'agression et la population congolaise est massacrée à l'est du pays. Et même juste pour ça, nous méritons cette place-là au Conseil universel des droits de l'homme. Alors, je voulais justement rappeler une chose, parce que quand on suit certains compatriotes, ils se focalisent justement sur la première génération des droits de l'homme, alors que nous en avons plus de 4. Ils parlent plus seulement de droits civils et politiques. On oublie les droits économiques, socioculturels, même le droit collectif. Quand on parle de droits collectifs, je prends l'exemple de l'article 58 de la Constitution, qui parle de la redistribution équitable que le gouvernement doit garantir à la population. Mais si nous voyons le classe social, ce sont plus des politiques qui se retrouvent, comme par exemple notre ministre qui est au studio. il se retrouve, mais le petit peuple ne se retrouve pas dans cette distribution équitable de richesses de notre pays. Ça aussi, c'est le droit de l'homme. C'est le droit de l'homme. Et nous voyons le manque de la volonté politique en ce qui concerne cette redistribution. Même nos députés nationaux, ils touchent plus, pendant que les enseignants de l'école primaire n'ont presque rien. Ça aussi, c'est le droit de l'homme. Il ne faut pas se focaliser seulement à la liberté d'expression et tout ça. Oui, c'est bien beau, mais ce qui touche à la vie, le droit collectif. Si je prends l'exemple, je crois le confrère Patrick avait parlé de ça, le droit à la santé et à la sécurité alimentaire, c'est aussi un problème. Aujourd'hui, les étrangers nous vendent des choses qui affectent notre santé. Et même, je peux donner l'exemple des jus en plastique qu'on est en train de nous vendre ici, que nos enfants le prennent tous les jours. Mais nous ne voyons pas les améliorations de ce côté-là. Alors que ça touche directement à la personne humaine, à la santé humaine.
Voilà,
alors,
merci.
Il faut qu'on puisse repenser des choses autrement. C'est bien beau d'avoir de beaux discours, mais il faut que ces discours se transmettent. C'est transmettre, en action. Nous voulons voir le changement.
Voilà, merci, Maître Naomi Bofuku, depuis Mbandaka. Pour vous, c'est les droits, c'est pas seulement les droits de manifester, les droits politiques, le droit d'expression, mais aussi les droits des bonnes conditions de vie. Voilà, merci, Maître Naomi, d'avoir appelé depuis Mbandaka. Monsieur le ministre, vous avez suivi les avis des uns, des autres. Tous reconnaissent d'une façon ou d'une autre la désavancée, mais il y a encore des efforts à réaliser. On a parlé, par exemple, des conditions avec lesquelles se font des arrestations, parfois dans ce pays, avec de policiers qui se comportent de façon indigne. On parle également, vous avez suivi la maître Naomi qui a dit qu'il faut également promouvoir le droit à tout ce qui est lié aux conditions de vie humaine.
Alors d'abord, je commençais par répondre à maître Naomi, parce que lorsqu'elle dit « le ministre se retrouve », qu'entend-elle ? Sur quelle base elle le dit ? Parce qu'il faut qu'on fasse très attention, cher Marcel. Dans tous les pays du monde, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, pour commencer. Et ici, chez nous, malheureusement, c'est un partage de pauvreté. Moi, je suis député élu 3 fois, au national et 1 fois au provincial. Je sais ce que ça veut dire. Lorsque vous pensez que les députés sont nantis, en guillemets, mais vous vous trompez. Parce que les députés, c'est le seul, par exemple, représentant de l'État qui est connu, parce qu'il va directement. Il faut pas oublier, Marcel, que nous sommes dans un contexte où l'État est à reconstruire. Et l'État, je voudrais pas aller dans ces débats, l'État, c'est une construction collective. Tous les pays puissants du monde aujourd'hui les sont du fait de ce qu'ils reçoivent de leurs citoyens.
Mais alors, ce ministre, alors, s'il vous plaît,
je vais en arriver parce qu'il y a des embranchements, des questions qui sont cruciales, sur lesquelles il faut qu'on réponde de manière claire et sans ambiguïté. Attention, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous appelez luxe?
On a suivi dernièrement.
Qu'est-ce que vous appelez luxe? Moi, je suis par exemple de Bandal. Alors,
il ne s'agit pas de particulariser.
Non, j'en arrive.
C'est vrai qu'elle a particularisé.
C'est pour ça que je veux
Vous voulez réagir.
Non, je veux ici qu'il faut juste relativiser. Il faut juste relativiser parce que dans ce pays, même le président de la République d'où il est, n'a pas, le pays ne lui donne pas tout ce dont il a besoin pour répondre à tous les besoins de Congolais. Il en a la volonté, mais quand on parle des redistributions, j'ai entendu un intervenant dire qu'on a arrêté des enseignants parce qu'ils ont... je ne suis pas sûr encore qu'il faut qu'on ait des éléments plus précis. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle la ligne du président de la République est claire et de la première ministre, c'est justement le dialogue social avec les partenaires. Et que les enseignants ont grévé. Nous avons été à Bibois, en tout cas mes collègues du gouvernement qui sont habilités ont été à Bibois. Ils ont passé de nuit blanche à négocier et on a consenti des efforts parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous, on n'est pas là pour dire que tout le monde a tout ce qu'il faut dans ce pays. Pas du tout. Pas du tout. Mais lorsqu'on consent des efforts, par exemple 100 000 francs congolais pour 700 000 enseignants, ça peut paraître peu. si c'est pour une personne, mais lorsque ça parle, ça touche à 700 000 personnes, qu'est-ce que cela représente? Parce qu'on parle de redistribution, mais lorsqu'on parle, et vous l'avez dit à juste titre, lorsqu'on parle de gratuité de l'enseignement, mais qui paye cette gratuité? C'est pas les parents, c'est l'État. Lorsqu'on parle de couverture santé universelle, parce que l'enjeu pour nous, c'est quoi? C'est que les Congolais aient accès aux soins de santé à bas coût, mais aux soins de santé de qualité. Mais qui paye? C'est l'État qui paye. Alors, lorsqu'on a un programme qui a été étendu à cette province aujourd'hui, nous irons dans les 26. Alors, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas des redistributions, de quoi on parle? Lorsqu'aujourd'hui,
des écarts, vous regardez...
Je vais en arriver. Encore que sur ces questions, il faut relativiser. Parce que si nous partons du postulat que dans toutes les sociétés du monde, tout le monde ne peut pas loger à la même enseigne. Si nous partons de ces postulats, je crois que nous verrons les choses différemment. Alors, lorsque on parle, par exemple, du FONAREF, aujourd'hui, les victimes des violences sont prises en charge par l'État. Lorsque nous faisons cet effort-là, où le président de la République s'est engagé dans ces combats, mais vous pensez qu'il l'a fait, pourquoi? Tout ce que nous, gouvernement, nous faisons au quotidien, nous le faisons pour qui? Alors, faisons attention dans la symbolique pour nous dire, écoutez, il ne faut pas rester dans des postures entre guillemets pour dire qu'il y a certains qui font la fête, qu'on en pleure. Dans ce pays, lorsque vous êtes député national, mais tout le week-end vous assistez au deuil, vous assistez au mariage, vous payez des frais académiques, vous payez des frais scolaires, vous le payez pour qui? Ailleurs, là où on a construit l'État, vous savez que les soins de santé coûtent excessivement cher en Europe. Il y a des mutuelles, il y a des couvertures santé. C'est pour ça que nous, on a fait ces programmes. Et donc ici, c'est pour ça qu'il faut faire un effort pour d'abord comprendre ce que l'État est en train de faire avec des moyens. On a un budget, je pense, de 16 milliards, mais on est 100 millions de Congolais. Si vous divisez ça par 100 millions, ça donne 160 dollars. Mais avec 160 dollars, est-ce que vous pouvez vous suffire annuellement? Ici, il faut que nous tous, on s'élève. Le gouvernement essaye de faire sa part en disant nous devons faire de bonnes politiques, etc. L'initiative privée doit se lever pour dire voilà, qu'est-ce que nous pouvons capter? Quels sont les projets que nous pouvons porter pour être sûr que nous commençons à générer des richesses pour le pays et nous tous, nous avancerons. Alors, il y a eu des préoccupations tout à l'heure de messieurs, par exemple Patrick Audia, qui parlait des conditions de population vulnérable. Pour vous donner une illustration, est-ce que vous savez que toutes les infrastructures qui ont été construites dans les cadres du jeu de la francophonie, ou même celles qui sont construites dans les cadres du programme 145 territoires, tiennent compte de l'inclusion? Parce qu'on a pensé que pour les personnes vivant avec handicap, il y a des besoins d'assurer que la mobilité réduite soit prise en charge, notamment pour accéder à des buildings, à des infrastructures. C'est ce qui se fait, parce que nous tous, nous sommes potentiellement sujets à les devenir. Donc, nous tenons compte de tout ça. Lorsque j'entends Franck de Vienne parler de la problématique des salaires, encore que, à ma connaissance, les salaires ne sont pas, certes, à la hauteur que nous souhaitons, parce qu'il faut toujours faire de progrès de ce point de vue, mais je crois qu'il est régulier pour les fonctionnaires de l'État. C'est un engagement qui a été fermement pris par mon collègue des finances dès son arrivée.
Mais des salaires modiques.
Je pense que, non, s'il vous plaît.
J'ai dit qu'il faut améliorer.
Oui. J'ai dit qu'il faut améliorer. Et lorsque le président de la République, au dernier conseil de ministres, parle de conditions de travail de nos compatriotes qui travaillent chez les étrangers, avec des recommandations précises pour s'assurer que les SMIG est respecté, qu'ils ont droit aux soins de santé, qu'ils sont respectés et qu'ils ne travaillent pas dans les insultes. Mais qui les lui fait dire? C'est pour vous dire qu'il n'y a aucune question qui concerne le droit de Congolais que nous ne traitons pas. Mais il faut savoir malheureusement que pendant longtemps, ces questions n'ont pas été traitées. Pendant longtemps, on n'a pas généré des richesses. Il n'y a pas de génération spontanée. L'argent qui doit servir à améliorer les salaires des uns des autres doit être produit. Et c'est les efforts qui sont en cours lorsque vous regardez les niveaux du budget hausse chaque année. Et les niveaux de dépenses hausse aussi, parce que ces budgets-là, lorsqu'ils progressent, il faut que les Congolais en ressentent les effets. Bon, lorsqu'on parle des journalistes malmenés, torturés, mais tous ceux qui sont sujets à arrestation, etc., ont des droits qui doivent être respectés. Donc ici, il faut faire la nuance. C'est-à-dire que même si vous devez arrêter un individu, parce qu'il a contrevenu aux règles, il faut l'arrêter, mais en respectant aussi ses droits.
Exactement, c'est ça, c'est, ça, c'est important ça, de rappeler ça.
C'est moi qui vous parle. J'ai interpellé au moins une fois le ministre d'État, ministre de la Justice, pour lui dire, monsieur le ministre d'État, en tout cas, il faut dire aux inspecteurs ou à ceux qui procèdent aux arrestations de tenir compte du droit des personnes qu'on touche. Parce que c'est une symbolique qui est importante. On a parlé à Kisangani des policiers.
Mais
il faut louer les sacrifices que ces gens font, que les policiers et les militaires font. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des défis en termes de formation. Mais c'est pour ça que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, y travaille. Il y a une académie de police, je pense, qui a été préparée pour ça. Il faut de la formation, il faut des équipements. Et toutes ces questions, nous y donnons des réponses en même temps. Alors ici, cher Marcel, je veux bien qu'on nous tienne pour responsables d'un certain nombre de choses. Mais ici, je veux que, surtout que les Congolais, où qu'ils sont, comprennent l'engagement du gouvernement à honorer tous leurs droits.
Ils ont reconnu les avancées. Ça, c'est déjà important. Ils ont reconnu les avancées, mais il faut encore beaucoup plus.
Non, ça veut dire que nous, moi-même, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a encore des défis pas relevés. Mais il y a des défis lorsqu'on parle, par exemple, de droits économiques, de toutes ces choses qui sont liées au contexte économique et à ce que nous devons faire comme État pour mobiliser davantage. Et nous le faisons. Et je suis sûr que dans les prochains exercices, nous aurons encore fait des pas. Ici, il faut juste que nos compatriotes comprennent qu'il faut savoir faire la part de choses. En tout cas, pour ce qui concerne les rémunérations, comprendre que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et que si vous faites un sondage pour parler aux députés ou aux membres du gouvernement, si chacun devrait s'exprimer par rapport aux charges qui sont les siennes, peut-être que c'est lui qui gagne moins et peut-être plus à l'aise.
Voilà, les secondes se grainent. On va rapidement prendre la deuxième vague des auditeurs et puis on va revenir à notre invité pour conclure. Tagamile, Jonathan nous appelle depuis Bounia. Tagamile, vous avez la parole.
Bonjour aux auditeurs de la radio Capi. Je salue aussi la présence du ministre avec vous.
Alors, Tagamile, on revient plus sur ce que les autres ont déjà dit. Si vous avez peut-être des compléments par rapport à la situation des droits de l'homme en RDC, vous y allez. Hein. Vous avez certainement suivi les réactions de ceux qui vous ont précédé également, les explications de ministre Patrick Muyaya à ces sujets. Si vous avez d'autres compléments, on y va.
Oui, écoutez, cher Marcel, je vais analyser cette thématique dans la dualité.
Oui.
Donc, dans les deux sens qui se présentent. Le premier aspect que je vais aborder, c'est le fait que les droits de l'homme connaissent un progrès et puis un progrès significatif au niveau de la République démocratique du Congo. Bel et bien dans certains secteurs, bien sûr. Bon, le ministre a évoqué le cas de l'éducation pour tous. Il a évoqué le cas de la santé pour tous et consorts. Mais il faut maintenant voir la réalisation ou les réalisations de ces différentes propositions, soit des différents programmes pris par le gouvernement. Donc, c'est-à-dire, à un certain niveau, le ministre sera d'accord avec moi que, quand bien même que nous sommes en train de militer pour les droits de l'homme, mais bien sûr, il y a des insuffisances, il y a de certaines lacunes comme ça qui se laissent voir au travers toute la République. Bon, je vais épingler ici le cas, par exemple, de l'état de siège. Vous savez, la RDC a adhéré à cette déclaration universelle des droits de l'homme et c'est cet instrument en fait juridique qui régit en fait beaucoup d'États du monde et la RDC a adhéré. Je vais soulever l'aspect des droits à la vie. Vous savez, là on peut donner quand même coup de chapeau au gouvernement par rapport à ce décret de l'état de siège. Vous savez, l'état de siège a été décrété justement à l'est de la RDC pour faire face justement pour juguler toutes ces problématiques liées aux droits de l'homme, entre autres droits à la vie. Aujourd'hui, je peux vous rassurer, cher Marcel, qu'à Ituri et même au Nord Kivu, il y a des avancées comme ça dans ce sens de l'état de siège. Auparavant, les vies qui étaient...
Voilà, merci à Tagamile, on doit poursuivre avec d'autres auditeurs, mais du moins, vous reconnaissez qu'il y a des avancées par rapport à la promotion du droit de l'homme en RDC également. Ceux qui vous ont précédé l'ont reconnu, le ministre également en a parlé, et les efforts continuent à être consentis pour promouvoir davantage les droits de l'homme en RDC. Merci d'avoir appelé. Depuis Bounia, on revient à Kinshasa pour retrouver Maître Sylvain Lumou. Maître, vous avez la parole.
Oui, bonjour Marcel, merci. Bonjour aussi à monsieur le ministre.
Bonjour.
Et porte-parole du gouvernement et à tous les auditeurs. Donc, je pense que la thématique elle est bonne. On parle de l'avancée sur les droits de l'homme. Oui, mais je crois hier même j'ai dit que nos dirigeants, quand ils prennent des médias, quand ils s'expriment, ils doivent tenir compte des réalités sur le terrain. Ils ne doivent pas dire des choses comme s'ils vivaient dans le paradis. Je vais dire par rapport à la situation des droits de l'homme, moi-même, je sais qu'en terminant de l'université, j'ai parlé des organes diplomatiques et techniques dans le système des Nations Unies. Les organes des Nations Unies, ce sont des organes diplomatiques, c'est là où les choses se décident, mais ils font seulement des recommandations, c'est à vous en interne de les appliquer. Si le ministre nous dit qu'il y a une loi portant protection des droits des autochtones, oui, c'est bien, la loi a été votée, mais quelle est son application? Je venais de suivre une courte vidéo, je crois qu'il bagne dans les hauts où elle est, dans les hauts où elle est là-bas. Une dame en train de se plaindre que la société qui bat les goldes a fait arrêter leurs époux parce qu'on leur interdisait l'accès à leurs forêts. Or, c'est de ces forêts qu'ils vivent.
Voilà, Maître Sylvain, on doit poursuivre avec nos auditeurs. On retient, on en avait parlé à l'entame de ce magazine, que les lois sont votées et promulguées, mais la question de leur application, là, vous parlez d'un cas illustratif. Merci d'avoir appelé depuis Kinshasa. Honorable Bwanganga, vous êtes également à Kinshasa. Vous avez la parole, honorable Bwanganga.
Je salue le ministre qui est avec vous et tous les auditeurs de la radio Capi. Le sujet m'avait beaucoup intéressé. Je crois que je vous ai écrit dans le groupe pour donner mon avis par rapport au dossier.
Mais rapidement, honorable.
Monsieur Marcel, le grand problème que nous avons dans notre pays et dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est que nous avons des voyous. Il y a beaucoup de voyous. La police. Lorsque la police est envoyée quelque part pour une arrestation, soit-elle dans les règles ou pas, généralement, nos agents se comportent comme des voyous. C'est ça le problème. Moi-même, je vais vous donner un exemple. Le ministre est là. Ils ont des cortèges, ils ont des policiers qui roulent avec eux. Quel est le comportement de ces policiers-là? J'ai été victime deux fois des brisures de pare-brise. Je suis député national, vous vous imaginez. Deux fois. Par des agents de police. Deux fois. Si ça se fait comme ça, avec nous, qu'en est-il de pauvres citoyens? Le problème, c'est que la justice doit être appliquée de la même manière pour tout le monde. Il y avait le jour où le gouvernement devrait venir présenter son budget à l'Assemblée nationale, j'ai encore été victime d'un cortège de ministres. Vous vous imaginez, ils sont pressés, oui, mais ils permettent que les policiers qui sont avec eux se comportent comme des voyous. Vous demandez qu'on arrête un journaliste. Respectez ses droits. La police doit être recyclée. Nos services de sécurité doivent être recyclés. Il y a beaucoup de voyous.
Voilà, honorable, on n'a plus assez de temps, mais merci d'avoir fait mention de ce qui vous est arrivé lorsque déjà, à votre niveau comme honorable, représentant du peuple congolais, vous êtes victime de tels actes. Vous avez dit, qu'en est-il du citoyen moyen? On va prendre le tout dernier, Georges Kilalanga, et puis on va conclure avec notre invité. Georges Kilalanga, vous êtes à Kisangani, vous avez une minute, rapidement, vous écoute.
Oui, bonjour, monsieur Marcel. J'étais là en capitale.
Mais je dois dire au même qui. Il a des soucis avec la ligne de Georges Kilalanga. Désolé Georges, on peut plus continuer à vous suivre dans ces conditions. On revient à notre invité, le ministre Patrick Muyaya Katembwe. Monsieur le ministre, on retient, les avancées sont là. On retient également, c'est tout un processus avec les temps. On a parlé des lois qui ont été votées, mais qui ne sont pas toujours appliquées. Mais surtout, on a insisté sur le comportement des policiers. On a même parlé, vous avez suivi l'honorable, qui a même évoqué comment, des fois, les cortèges de ministres roulent à toute vitesse ici sur les artères de la capitale et puis les comportements des policiers.
Bon, écoutez, sur le comportement des policiers, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, il ne faut pas faire des généralisations. Moi, je ne suis pas sûr que tous les policiers se comportent de cette façon-là. Et je ne pense pas non plus, sûrement qu'il y a des excès des ailes, mais je ne pense pas qu'une autorité, qui qu'elle soit, peut donner instruction qu'on brise ou qu'on casse le pare-brise de quiconque d'ailleurs sur la route. C'est des cas qui sont franchement très déplorables. Et nous qui vous disons, nous sommes les membres du gouvernement. Nous sommes tenus, nous, à être ceux qui prêchent par l'exemple. Et sur ces questions des circulations en deuxième bande ou même en cortège, etc., mais nous-mêmes, nous sommes tenus de les respecter. En tout cas, s'il y a des cas, des dérapages, ça ne manque pas, mais peut-être qu'il faut les signaler. C'est pour ça qu'il y a des officiers des polices des circulations qui sont postés, y compris, on a vu des cas, des véhicules, des officiels être retournés. En tout cas, pour nous, ce qui nous concerne, nous roulons et nous nous assurons que nous respectons les droits des autres qui roulent dans les mêmes routes que nous. Encore que nous tous, nous faisons face aux mêmes situations, des embouteillages et des bouchons au regard de la ville de Kinshasa. Et donc, ici, ce qu'il faut retenir, hein, monsieur, cher Marcel et tous les auditeurs, c'est qu'il y a une volonté. Et lorsqu'il y a la volonté, il y a le chemin. Et parce qu'on a déjà, on est déjà engagé sur le chemin, il y a encore un parcours à faire. C'est pour ça qu'il est important que nous tous nous puissions être au même niveau. C'est bien d'avoir cette interaction. C'est bien d'avoir des cadres où vous écoutez les Congolais dire leur frustration. Mais nous, ce que nous leur disons, c'est que nous sommes peut-être tout aussi frustrés que vous. Du fait, justement, de voir que pendant longtemps, même aux questions fondamentales, certaines n'ont pas trouvé des réponses. Nous, nous donnons des réponses. Nous disons, Marcel, qu'il y a des défis à relever. Nous disons pas que tout est beau. Nous disons pas que nous avons achevé la marche. Encore qu'aucun pays au monde ne peut venir se bomber les torses et dire que nous, on a terminé la marche pour le respect des droits humains. Mais ici, il faut situer les besoins que nous avons dans notre contexte, un contexte économique difficile, un contexte rendu encore plus compliqué du fait de la persistance de la situation sécuritaire dans l'Est. Mais ici, la détermination est grande, plus grande encore, que ce soit dans les chefs du président de la République, que ce soit dans les chefs de la première ministre et de nous tous, membres du gouvernement, et de par-delà nous, toutes les institutions. Et donc nous allons faire notre part. Lorsqu'il y a des cas de dérapage qui sont constatés, il faut toujours les signaler. Il faut toujours les signaler pour qu'au moins cela soit enregistré, pour que nous puissions y donner les réponses.
Voilà, monsieur le ministre Patrick Muyaya Katembo, il ne reste plus qu'à vous dire merci. Je rappelle que vous êtes ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce magazine pour les auditeurs et surtout d'échanger avec nos auditeurs. Nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie et merci à tous les auditeurs qui sont intervenus.
Merci. Voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de nous avoir suivi également en direct sur la plateforme digitale de Radio Kapiasa. À voir à YouTube, Facebook et X. Merci à toute l'équipe technique, à Paul Badianyama, Clément Chimanga, Jonathan Fouanani, à Julie Feza Bongonda qui a assuré la réalisation et la coordination de ce magazine. Au micro, c'était Marcel Ngomoba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.